Voilà. Donc, nous allons voir aujourd'hui la parabole de la perle, qui est le pendant de la parabole du trésor, qui lui débouche sur la parabole du trésor, ça débouche sur 12 études, puisqu'il faut étudier chaque pierre,
Chaque tribu.
chaque tribu. Ici, donc, Matthieu 13, versets 45 et 46. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix. Il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a achetée. Alors, on sait très bien que le marchand dont il s'agit, c'est le Seigneur Yeshua, qui est venu mourir pour nous racheter, on l'a expliqué hier soir. Et cette parabole représente les gentils messianiques, c'est-à-dire ceux qui vont se rattacher, les gentils, et aussi Éphraïm, parce qu'Éphraïm s'est perdu dans les nations. Donc Éphraïm s'étant perdu dans les nations, il poissonne un peu partout et il faut des pêcheurs d'hommes pour les attraper. Donc, cette perle, c'est quelque chose qui se prépare en cachette et le Seigneur est en train de se préparer quelque chose d'extraordinaire, mais caché. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est très visible. Je voudrais préciser que le peuple juif n'est pas un peuple de la mer. Il y a des grandes conversations secrètes là, qui se mènent. Et jamais dans l'histoire d'Israël, on ne parle de perles. Si vous reprenez les Écritures, vous allez vous rendre compte qu'on parle très peu de perles dans la Bible. Évidemment, il y a Proverbe 31. Hein? La femme qui a plus de valeur que la perle. Donc, et vous verrez qu'à chaque fois, c'est pour dire qu'il y a mieux que la perle. Alors, je vais vous sortir quelques versets, quelques rares textes qui parlent de perles dans l'Ancien Testament. Il y a Proverbe 31:10, qui peut trouver une femme vertueuse, elle a plus de valeur que les perles. Proverbe 8:11, car la sagesse vaut mieux que les perles. Elle a plus de valeur que les objets de prix. Proverbe 25, il y a de l'or et beaucoup de perles, mais les lèvres savantes sont un objet précieux. Proverbe 23, 31, ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge, qui fait des perles dans la coupe et qui coule aisément. Et puis, dans Cantique 1, 10, tes joues sont belles au milieu des colliers, ton cou est beau au milieu des rangées de perles. Donc, en Israël, on ne parlait pas beaucoup de perles, et c'est normal. Ce n'est pas un peuple de la mer. Il n'y avait pas de perles sur les couronnes des rois. Les couronnes des rois de Juda ou d'Israël, il n'y avait pas de perles dessus. Aucun collier de perles en Israël. Pas de perles non plus sur le pectoral. Il n'y en avait pas. Il y a un petit passage du livre de Job qui parle de la sagesse et qui compare à la perle. Mais la sagesse, où se trouve-t-elle? Où est la demeure de l'intelligence? L'homme n'en connaît pas le prix, elle ne se trouve pas dans la terre des vivants. L'abîme dit, elle n'est pas en moi. La mer dit, elle n'est pas en moi. Elle ne se donne pas contre de l'or pur. Elle ne s'achète pas au poids de l'argent. Elle ne se pèse pas contre l'or d'Ophir, ni contre le précieux onyx, ni contre le saphir. Elle ne peut se comparer à l'or ni au verre. Elle ne peut s'échanger pour un vase d'or. Le corail et le cristal ne sont rien auprès d'elle, la sagesse vaut plus que les perles. Donc, vous voyez, quand on parle des perles dans la Bible, c'est toujours pour trouver quelque chose de mieux. Vous voyez ? Et notamment la sagesse, ou la femme de grand prix, etc. C'est toujours mieux que la perle. Donc, la perle, c'est pas grand-chose en Israël. Et c'est pas difficile de comprendre que... Enfin, j'imagine que quand les disciples ont entendu la parabole de la perle, ils ont dû avoir un gros point d'interrogation sur leur tête, en disant, mais pourquoi est-ce que Jésus parle d'une perle de grand prix? C'est quand même étonnant. Les recherches archéologiques ont montré que la perle avait sa place dans les couronnes des anciens pharaons. À Ninive, la perle était en grand usage et avec une valeur grandissante qui lui a été donnée progressivement, de sorte que la perle était devenue très précieuse dans l'est, dans les pays à l'est d'Israël. Alors pourquoi est-ce que Jésus parle de la perle? Eh bien, et voilà, la tentation de la perle. Est-ce que ça voulait dire que Jésus ferait rentrer des gens étrangers à Israël, de l'extérieur, dans le royaume des cieux pour la vie éternelle? Et en effet, c'est ce que Yeshua voulait faire comprendre. C'est bien la raison pour laquelle il donne deux paraboles bien semblables. Et vous noterez que le mode de fabrication des pierres précieuses et de la perle est complètement différent. Les pierres précieuses, c'est-à-dire donc les 12 tribus, sont formées au feu et à la pression tout le temps. C'est le cas de le dire quand ça a été la Shoah, mais encore maintenant, ils sont sous pression. Et ils sont régulièrement au feu. C'est la façon avec laquelle Dieu travaille avec eux. Et Pierre finira par comprendre que Jésus voulait faire entrer les gentils dans son royaume. Et dans Acte 10, au verset 34, Pierre, ouvrant la bouche, dit « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait pas exception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. » Alors, vraiment, il y a une différence fondamentale dans la fabrication entre les pierres précieuses et la perle. Et ce qu'on peut dire l'Église, c'est le fruit d'un organisme vivant. Yeshua a été percé sur son côté par une lance, comme Adam, dont Dieu a tiré du côté Ève. Et quand Jésus a été percé sur le côté, l'Église a été formée. Il en a tiré l'Église, son épouse. Et l'Église, c'est le résultat de la blessure que nous avons faite à Yeshua Mashiach par nos péchés. Jean 19 nous dit que s'étant approché de Yeshua et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes, mais un des soldats lui perça le côté avec une lance et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Alors comment se forme une perle? Je vous lis un petit texte. C'est un petit grain de sable ou un autre corps étranger qui pénètre sur le côté de l'huître et la blesse, comme blesserait un grain de poussière dans un œil. Pour calmer la souffrance que lui cause ce corps étranger, l'huître recouvre cette impureté d'une couche de nacre, matière gluante, qui finit par durcir Et à ce moment-là, l'inflammation recommence et produit à nouveau une douleur à laquelle l'huître répond par une nouvelle couche de nacre. Et ainsi de suite, couche sur couche, l'huître va jusqu'à donner sa vie pour la formation de la perle, en sorte que ce corps étranger se voit transformé à l'image d'un organisme qui l'a formé. Sublime image de l'église de Yeshua HaMashiach. Progressivement. Et vous noterez que c'est dans une souffrance perpétuelle que les couches de nacre se mettent et durcissent et ça recommence. Le Seigneur avait promis d'envoyer son Esprit Saint sur ses disciples et c'est ainsi que l'Église est née, protégée et conduite par le Saint-Esprit. Jésus avait dit « Je vous le dis en vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Et dans Acte 2, nous voyons que le jour de la Pentecôte, évidemment, il vint du ciel un grand bruit, comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. La perle, voyez, c'est un objet de luxe. Et on s'en sert pour faire des bijoux. C'est un ornement. En Orient, cet ornement parle d'innocence et de pureté. Une parure de perles était le symbole du triomphe du bien sur le mal. Étonnant, hein?
Et pas en Israël, alors?
Non, pas en Israël, en Orient. En Israël, il n'y en avait pas. En Orient, seuls les rois, avaient le droit de se parer de ce joyau. Et il y a encore quelques années, du temps du Shah d'Iran, toute perle de grand prix devenait automatiquement sa propriété. C'est donc dans ce pays-là, en Iran, un ornement précieux. Alors maintenant, je ne sais pas depuis que ce sont les islamiques, ce que c'est devenu, mais en tout cas, du Shah d'Iran, c'était comme ça. Hein? Et la perle, c'est quelque chose qui apparaît quand c'est fini. Quand c'est fini, alors elle est dans sa gloire, elle est belle. Mais pas avant. Elle est destinée à une couronne de gloire et ce sera la couronne du roi. Alors on va regarder la formation d'une perle. La perle, c'est le résultat d'une anomalie. On va dire d'un accident. Imaginez très bien un poisson là, qui se promène au fond de la mer. Il soulève le sable et l'huître qui est là ouverte, hop, elle va vite se refermer, chasser tout le sable qu'elle peut, mais s'il reste un grain, elle est blessée. Alors, en quelque sorte, c'est une pollution. Et il y a une souffrance. Et vous remarquerez que la plupart d'entre nous, le Seigneur est venu nous chercher parce qu'on était dans une souffrance. Et c'est à ce moment-là, dans la souffrance, qu'il est venu nous attraper. Il y a dans nos vies, à un moment donné, une sorte d'accident. Mais ça n'est pas du hasard, bien sûr. Mais en tout cas, Dieu a organisé dans nos vies une sorte d'accident qui va nous conduire à devenir des perles. Alors, il peut y avoir dans nos vies des tempêtes, des éboulements, des courants, comme des courants dans une rivière, toutes sortes de phénomènes que nous qualifierons de problèmes, de catastrophes, d'épreuves qui sont communes à tout le monde. Communes à tout le monde. Tout le monde vit des épreuves, des difficultés. Et l'huître peut souffrir aussi, non pas d'un grain de sable, mais de l'arrivée d'un petit ver. Au fond de la mer, il y a des petits vers. Et quand ils vont pénétrer dans l'huître, ça va former quelque chose. Alors, en 1859, il y a un savant qui s'appelle Kellart, qui a constaté que les huîtres de Ceylan étaient parasitées. Voilà, la troupe est passée. Parasitées par des petits vers qu'on appelle des gestodes. Et il s'est rendu compte et il a proposé lui-même d'infester volontairement, c'est pas grave, d'infester volontairement des bancs d'huîtres. Et il s'est aperçu que avec ce petit ver, eh bien, l'année suivante, il y avait beaucoup de perles. Alors c'est étonnant, et tous ces petits vers ne donnent pas tous de belles perles. Ici, je vous lis un texte. En mer Rouge, lorsque les pluies étaient abondantes, les pêcheurs constataient que les raies venaient en grand nombre chercher leur nourriture dans les eaux limoneuses. L'année suivante, ils trouvaient dans ces lieux des perles en grande quantité. L'explication de ce phénomène ne fut découverte qu'au début du siècle par un savant qui remarqua que les raies renfermaient dans leurs excréments un parasite qui, libéré dans l'eau, se fixe dans la chair de l'huître. Afin de se débarrasser de ces larves, les tissus cellulaires sécrètent un amas qui enkyste le parasite, mais qui ne devient pas pour autant une perle. Souvent, les plongeurs découvrent dans les huîtres des amas, des petites boules comme ça, qui sont de couleur brun-marron et qui ne renferment, il n'y a pas de perle. Pour qu'une perle se forme, il faut que la larve soit entourée par des cellules particulières qu'on appelle les cellules épithéliales, qui sont les seules à sécréter la matière perlière. Donc, en conclusion, ça veut dire que les savants ne savent pas, on ne sait pas avec précision pourquoi certaines larves deviennent des perles et d'autres des kystes. Des kystes marrons. On ne sait pas. Mais on a tout lieu de penser qu'une catégorie, au moment où elle rentre dans le tissu de l'huître, entraîne à son passage une certaine quantité de cellules qui très rapidement prolifèrent et forment un sac perlier. Donc ceux-là vont donner des perles. Toujours est-il que ces perles qui ont été formées autour d'une larve comme ça, si vous les coupez, eh bien vous distinguez au fond, au milieu de la perle, quelque chose de noir. La perle est une belle perle, mais on voit qu'elle a démarré sur un verre, sur quelque chose de noir, qui a été entouré. Vous voyez ? Quand c'est un grain de sable, c'est le grain de sable qui est au milieu. Alors la question qui se pose à nous et à tous ceux qui sont appelés au Seigneur, c'est: est-ce que nous allons devenir une perle ou un déchet ? Et on a pu voir dans le paragraphe précédent qu'une huile peut, dans certaines conditions, former une perle et dans des conditions très voisines à kyste. Pourtant, les huîtres, les deux huîtres, celles qui forment une perle et celles qui forment un kyste, les deux huîtres ont souffert de la même façon. Ils ont réagi, semble-t-il, de manière identique. Mais à l'arrivée, et c'est seulement à la fin, on se rend compte que quand c'est un kyste, il est inutile et on le jette. Tandis que la perle, on la garde. Alors, quelle leçon on peut tirer de ça? Eh bien, on va tirer que ça n'est qu'à la fin de notre vie, à la fin du processus, que l'on constate qu'il y a une belle perle. Avant, il peut y avoir un grain de sable ou un verre, un problème, un ennui, une souffrance qui donnera rien ou qui donnera un kyste ou qui donnera une perle. Mais il faut savoir aussi que quelquefois, quand il y a un kyste, à un moment donné, il peut y avoir quelque chose qui fait que ça se transforme en perle. Donc vous voyez, c'est à la fin que la perle apparaît, pas au début. Au début, c'est tellement petit. Et c'est un peu l'étude que j'avais faite. J'avais d'ailleurs pas pensé la faire, mais on l'avait fait l'après-midi de mercredi à Strasbourg. Et j'avais bien précisé que nous avons le salut en espérance. Jésus et les apôtres ont ajouté des paroles qui montrent que nous pouvons bien commencer et mal finir. Dans Romains 8, au verset 22 à 25, il dit « Nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre des douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus l'espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec espérance. Pour être sauvé, il faut avoir reçu l'amour de la vérité, on en a parlé toute la semaine. Ceux qui prennent plaisir à l'iniquité seront condamnés s'ils ne se repentent pas. Or, l'iniquité peut prendre beaucoup d'aspects, bien séducteurs et très trompeurs dans un monde en décomposition comme le nôtre. Seule la parole de Dieu, la Bible, peut nous servir de référence. Yeshua avait dit à Pilate, « Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Et Pilate lui a dit, « Mais qu'est-ce que la vérité ?» Et pourtant, Jésus avait dit avant à Thomas, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et comme Yeshua, c'est la parole faite chair, nous pouvons connaître la vérité par la parole. Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Certains diront que la parole de Dieu, c'est compliqué, qu'ils ne sont pas capables de comprendre, etc. C'est vrai, il y a des endroits un peu compliqués, c'est vrai. Mais il y a beaucoup de passages très simples, comme les principaux commandements de Dieu. Matthieu 22 nous dit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. » C'est pas compliqué, ça. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est pas compliqué, ça. C'est d'une simplicité. Et en plus...
C'est pas compliqué à comprendre, mais c'est pas simple à réaliser.
Ah oui. En plus, Jésus nous a envoyé l'Esprit afin de nous aider. Et cet Esprit, il dit quand il vous conduira dans toute la vérité. Alors, nous avons tout ce qu'il nous faut. Si nous cherchons la vérité sincèrement, nous la trouverons. Certaines personnes sont capables de faire des prodiges, vous savez, pour obtenir ce qu'elles désirent. Si nous aimons la vérité, nous devons faire de même. Mais que penser de celui qui ne persévère pas? Le Seigneur nous a prévenus dans Matthieu 10 au verset 22, « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Donc vous serez haïs de tous. Donc il ne faut pas être étonné de ce qui se passe actuellement. Et dans l'Église, il y a des gens qui ont l'apparence de chrétiens, on en parle depuis toute cette semaine, mais qui n'en sont pas. Alors, nous voyons que la formation de la perle ne consiste pas à pratiquer des dons, mais apprendre à aimer. Les dons, c'est en plus, c'est cadeau. Et tant mieux si le Seigneur nous a donné des dons. Mais rappelez-vous ce que Paul disait dans 1 Corinthiens 1. « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. » Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Donc si je n'ai pas la charité, si je n'ai pas l'amour, je ne serai pas une perle. Et le Seigneur, il est très pragmatique. C'était quelqu'un de très concret, le Seigneur. Et c'est pour ça qu'il nous a dit, mais regardez les fruits. Regardez les fruits. C'est aux fruits qu'on reconnaît. Le fruit de notre travail sera bon si nous faisons ce travail avec l'amour de Yeshua dans un complet désintéressement pour nous. Complet désintéressement. La parabole des 10 vierges, on en parle tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je peux aller dans n'importe quelle église. Quand on arrive, paf, c'est la parabole des 10 vierges. Ah, en ce moment, c'est tout le temps. Et là, les 5 vierges qui n'ont pas d'huile, là, le Seigneur leur dit, je ne vous connais pas. Il ne dit pas, je ne vous ai jamais connu. Il dit, je ne vous connais pas. C'est-à-dire que elles se sont éloignées progressivement. Elles ont été connues. Elles ont été connues. D'ailleurs, ce sont des vierges. Dans la parabole des talents, le serviteur qui reçoit un talent ne connaît pas la bonté de son maître. Il pense qu'il est dur et exigeant. Et alors le maître, le serviteur enterre son bien, son talent, et le maître le désigne comme serviteur inutile. Il le qualifie de méchant et paresseux. Et il dit, le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Dans la parabole du serviteur impitoyable, le méchant serviteur ne pardonne pas à son compagnon, alors que lui-même avait eu sa dette effacée. Qu'est-ce qui lui arrive? Il est livré au bourreau. Et le bourreau, c'est Satan. Quand Yeshua dit qu'il est le cep et nous les sarments, il est bien précisé que celui qui ne demeure pas en lui est coupé et jeté au feu. De quel feu s'agit-il sinon celui de l'enfer? Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Comme le sarment, il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Yeshua a par ailleurs averti que le blé et l'ivraie pousseraient ensemble, qu'il devait en être ainsi jusqu'à la fin. Et je vous ai expliqué hier, j'en ai parlé, je crois que le blé et l'ivraie, ça se ressemble beaucoup, sauf à la fin. Et à la fin, on y est. Attends, c'est rien. Alors, le fait...
La perle, elle est partie.
La perle blanche.
C'est l'enlèvement.
Le fait de prêcher, d'enseigner, de chanter la parole de Dieu, de faire des œuvres nombreuses, etc., ne fait pas de nous des êtres sauvés. Et Yeshua dit à Nicodème, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et quand il s'est adressé aux pharisiens, il leur a dit 8 fois, malheur à vous. Il n'était pas tendre, il était juste. Parce que l'hypocrisie est un obstacle dénoncé par Yeshua. Il n'empêche que ces pharisiens annonçaient la parole. Ils se croyaient justes. Et en réalité, ils fermaient le royaume des cieux et ils n'y entraient pas eux-mêmes. Toute leur vie consistait à paraître juste. C'est pourquoi le Seigneur qui est juste fera de même avec les chrétiens qui ne font que paraître justes, mais qui vivent tranquillement avec des péchés cachés et qui souvent donnent des leçons aux autres. Qui veut entendre de la bouche du Seigneur « Malheur à toi » ? Personne, je suppose. Alors, il faut que nous apprenions la crainte de l'Éternel, à nous approcher de lui dans l'intimité. Et il nous est dit, je dis que celui qui cherche sa propre gloire et sa propre justice, que celui-là abandonne son projet. Alors pour en revenir aux perles, ce n'est pas parce qu'un grain de sable ou un verre s'est glissé dans notre vie que nous deviendrons une perle. Si nous négligeons ce qui est dit ci-dessus, tout ce que je viens d'en parler, nous deviendrons un déchet et rien d'autre. Et on peut ajouter, pour clore ce paragraphe-là, que la prostituée dans l'Apocalypse a des ornements. Vous irez revoir. Et parmi ces ornements, il y a des perles. Et ce sont des perles creuses. Et les perles creuses, c'est qui? Eh bien, c'est ce qui est décrit dans Timothée, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Ça, ce sont des perles creuses qui seront donc sur l'ornement de la prostituée. Et la prostituée, elle est en train de grandir. Alors, je vais revenir maintenant à la composition de la perle. Du point de vue chimique, la composition de la perle varie un petit peu selon les endroits où elle est faite, où elle est fabriquée. Il y a une matière qu'on appelle l'aragonite, avec à peu près 92% d'aragonite. L'aragonite, c'est quoi? C'est un, on va dire, c'est de la craie, hein, pour parler simplement, du calcaire, du carbonate de calcium. Et la province d'Aragon en Espagne a un calcaire un peu spécial, c'est de l'aragonite. D'accord? Donc il y a à peu près 92% de craie. C'est de la craie dans une perle. Avec une craie, on écrit sur un tableau. C'est avec votre ongle, vous le cassez. Ça n'a aucune solidité, rien. Rien du tout. 92%. Vous ajoutez maintenant à peu près 6% de conchioline. Alors ça, c'est la matière qui forme le coquillage, vous voyez? De l'eau, à peu près 2%, et puis quelques ingrédients, 0,1% d'autres choses. Donc c'est vraiment très très simple. C'est du calcaire. Et la conchioline va relier les cristaux de calcaire entre eux. Conchiolin, c'est un mot qui signifie, c'est un mot grec, qui signifie coquille. Alors, ce qui se produit, c'est, vous savez que la perle, il n'y a aucune perle identique, déjà. Elles ne sont pas forcément rondes, puisque c'est le fruit d'une blessure, donc elle entoure. Et il va y avoir plusieurs caractéristiques à la perle. D'abord, la couleur de la perle elle-même. Ça, c'est dû à l'huître, le manteau de l'huître. Et vous avez des huîtres donneuses qui vont donner des perles noires, d'autres qui vont donner des perles blanches. Il existe des perles roses, il existe des perles bleues. Donc ça, c'est vraiment, c'est la couleur, si vous la coupez, ce sera bleu dans toute la tranche. C'est dans l'épaisseur. Et puis, vous savez bien que la couleur nacrée, c'est une couleur qui décompose la lumière du jour. Hein? Donc, vous allez avoir la lumière du jour, et puis ensuite, ça va partir, ça va diffracter dans tous les sens. Et là, chaque nacre, enfin chaque perle va décomposer d'une manière différente la lumière du jour. Donc il y a deux caractéristiques, sa couleur intrinsèque, et je me souviens la première fois que j'avais fait cette étude autour de nous comme ça, il y avait deux Nicoles, une blanche et une noire. Et je leur ai dit, c'est les perles blanches et la perle noire. Et depuis ce temps-là, je les appelle les perles blanches et noires. Et alors, la nacre des perles, j'y reviens, c'est de la craie toute simple. Toute simple. Or, on s'aperçoit que quand la perle est finie, elle est tellement solide qu'elle est 3000 fois plus solide que la craie de départ. Et vous pouvez faire passer un camion dessus, elle ne cassera pas. Elle ne va pas éclater. Alors, comment ça se fait? Eh bien justement, c'est avec le temps. Et le Seigneur nous forme avec le temps. C'est couche après couche, l'huître va mettre des nanocouches de calcaire. Et je vous montrerai la photo, je l'ai ici. Ça, ça fait 5 microns, ici. Vous voyez, ça fait des tuiles, comme ça. Ça fait des nanocouches de calcaire. Et si on pouvait fabriquer une voiture de la même matière, vous pourriez faire tous les accidents que vous voulez, elle serait toujours entière. C'est une matière extraordinaire. Extraordinaire.
C'est quelque chose qui doit constituer la société.
Alors, on constate deux aspects extraordinaires de la perle. Il y a sa dureté et ses couleurs. Le premier aspect, c'est la dureté, la solidité, sa résistance exceptionnelle due à son mode de fabrication. Le Seigneur a un mode de fabrication de notre fabrication. Il nous fabrique tout doucement comme chrétiens. Et ce mode de fabrication des perles, les chercheurs ne l'ont toujours pas compris. Ils savent pas comment ça se fait. Eh bien, de la même façon, je dirais que les observateurs du monde chrétien ne savent pas comment sont fabriqués les chrétiens. Mais, à l'arrivée, vous avez des gens extrêmement résistants et qui résistent à tout. Regardez, en Moyen-Orient actuellement, ils se font égorger, ils ne renient pas leur foi. Comment ont-ils été construits ? Couche après couche, avec le Seigneur. Voilà. C'est toujours, toujours dans la souffrance. Parce que l'huître, elle souffre. Et à chaque fois, une fine couche. Une fine couche. Ça ne finit jamais. Mais à l'arrivée, vous avez quelqu'un de très solide dans la foi. Et ça, c'est extraordinaire. Couche après couche, il dépose dans nos circonstances qui sont différentes pour chacun, mais Dieu le sait. Il sait par où nous devons passer, il sait comment il va faire et pourquoi il le fait toujours. Regardez un petit peu, ça a été écrit, hein, 1 Pierre 1, versets 5 à 8. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science. Regardez les couches. À la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront pas oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur, Yeshua Mashiach. Rien ne peut détruire l'œuvre de Dieu. Et Paul affirme pour sa part, à l'image du camion qui ne peut pas écraser une perle, ce n'est pas nous qui serons écrasés, mais c'est Satan qui est écrasé sous nos pieds. Pour vous, votre obéissance est connue de tous, je me réjouis donc à votre sujet, et je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien et purs en ce qui concerne le mal. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Yeshua Mashiach soit avec vous. Les perles, voyez, qui parlent à prostituer, sur le diadème de la prostituée, ne sont pas de cette qualité. Elles ne résistent pas à la pression. Et à la fin des temps, nous verrons la différence entre les vraies perles et les perles creuses, parce qu'elles ne sont que des imitations. Ça, c'est le premier aspect. Le second aspect, c'est la couleur. Et cette couleur est intimement liée à la structure physique des couches, des nanocouches, justement. Chaque perle est différente. Et il ne faut pas imaginer qu'il y aura deux perles identiques. La couleur, c'est le témoignage. C'est le reflet de notre vie. Et chacun a un témoignage, un reflet différent. Dieu a plaisir à entendre et voir nos témoignages qui glorifient son nom. Il y a la couleur elle-même de la perle. Chaque chrétien a sa personnalité. Et puis, il y a les couleurs rayonnées, comme si nous étions un miroir à l'image de Dieu. Chacun renvoie une fraction de la lumière de Dieu. Alors, je voudrais terminer en lisant un petit texte. La perle est le produit de la douleur et de la souffrance. Mais son lustre peut être détruit lorsqu'elle est traitée avec négligence. Son charme, dû au jeu de lumière, peut disparaître lorsqu'elle est souillée par des taches de graisse ou d'encre, par exemple. On trouve dans des très anciennes tombes des perles qui ont été déposées près des cadavres, mais voici qu'elles se sont elles-mêmes décomposées. Et leur poussière s'est mélangée avec celle des morts. Ainsi, semblable à la perle née de la douleur, la vie spirituelle ne peut embellir que par la douleur et par la souffrance. Et ça explique beaucoup de choses. Dieu ne pourra pas faire de perle avec nous s'il n'y a pas souffrance et douleur dans notre vie. Mais plus tard, à moins de rester attaché à notre Seigneur dans l'humilité par les liens de l'amour, ainsi que par la reconnaissance de notre cœur, nous courons toujours le risque de perdre le lustre, la beauté qui nous a été conférée par la souffrance, et de tomber à l'état d'élévation auquel la douleur nous avait conduit. Il est donc bien nécessaire de toujours veiller et prier. Le Seigneur n'a-t-il pas dit qu'il voulait une église sans tache ni ride? Les invités au repas de noces ne doivent-ils pas tous revêtir un habit de noces? Voilà, que le Seigneur vous bénisse.